السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous poursuivons l'étude d'un sujet grandement important pour chaque personne souhaitant se rendre à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre « Wa atimmu al-hajj wal-umrata lillah » et vous vous devez de parfaire, de compléter votre hajj, votre pèlerinage et votre umra pour Allah. Et nul doute quant au fait que celui qui connaît les buts recherchés à travers le hajj, les étudie, les comprend, les note et cherche à les concrétiser, sera celui qui aura le mieux complété et le mieux profité de son pèlerinage. Wala hawla wala quwwata illa billah wa hasbunallah wa ni'mal wakeel. Dans un cours précédent, nous avions parlé de tahqiq al-tawhid. Un des grands buts recherchés du hajj est de concrétiser le monothéisme pur. Deuxièmement, al-fawz bi ridallah 'azza wa jall wa an-najat min an-nar. Obtenir le succès à travers l'agrément d'Allah et le salut face au feu de l'enfer. Troisièmement, nous avions cité tahqiq taqwallahi ta'ala. Concrétiser la piété et la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quatrièmement, iqamatu dhikrillah. Un des buts recherchés dans le pèlerinage, c'est la mention d'Allah avec abondance. Poursuivons cet acheminement dans notre sujet. Cinquièmement, parmi les grands buts recherchés dans le pèlerinage, taqwiyatul iman. Le fait de renforcer sa foi. Toutes les étapes du pèlerinage, toutes les actions, tous les rites sont des points de la foi et des points de l'islam. Ils font partie intégrante de la foi et en même temps, ce sont des causes pour l'augmenter. Et vous n'êtes pas sans savoir que la foi augmente et diminue. C'est une parole sur la langue, une croyance dans le cœur, des œuvres avec les membres, qui augmente avec l'obéissance d'Allah et diminue avec sa désobéissance. Et lorsque le pèlerin se détache de ses habitudes, de ses attaches, lorsqu'il voyage à la recherche d'Allah, dépense sur le sentier d'Allah, lorsqu'il se retrouve avec ses frères fillah, sur ce voyage, le voyage de la vie, sa foi augmente. Étape après étape, il est loin des péchés, loin de l'insouciance. Et combien de pèlerins a vu son cœur dirigé vers Allah comme jamais, sa foi augmentée comme jamais. Naam. Combien de pèlerins sortent de chez eux, le cœur plein d'espoir, plein d'amour pour Allah, plein de crainte de se voir rejeté, de voir son œuvre non accomplie, inachevée. Combien de larmes ont coulé dans le chemin du pèlerinage? Combien de sadaqa dépensées? Combien de gouttes de sang ont été coulées, se sont écoulées dans les sacrifices le jour du hajj, akbar, le jour du sacrifice? Combien de repentirs sincères de retour vers Allah Azza wa Jal durant le pèlerinage ont été acceptés? Et combien de personnes sur le chemin de l'enfer ont été affranchies et guidées? Très nombreuses sont les histoires et les récits, bienheureux, comptant le fait que certaines personnes ont connu la guidée lors du pèlerinage. Certaines personnes ont connu la sunna et l'amour de la science lors du pèlerinage. Certaines personnes ont été guidées et éclairées lors du pèlerinage. Combien de du'as ont été exaucés dans les différents moments du pèlerinage. Le cœur rempli d'espoir, d'amour pour Allah, de bonne opinion de son Seigneur. Les pèlerins sont les invités d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu sa'alu fa'atahum » Les pèlerins et ceux qui font la Umrah sont les invités d'Allah. Il les a invités, lui ont répondu. Ils l'ont invoqué, il les a exaucés. Et remarque que le pèlerin se détache de tout. Il laisse sa famille, son travail, ses habitudes, son pays. Il laisse son repos, sa facilité. Puis il supporte toutes les difficultés du voyage et dépense de grandes sommes. Arrivé au Miqat, il se dévêtit. Il enlève ses beaux vêtements par humilité et rabaissement face à Allah et obéissance pour porter deux étoffes de tissu, un qui couvre la partie inférieure, un qui couvre la partie supérieure. La tête découverte. Il prononce la talbiya, rabaissé devant son Seigneur. Il recherche son agrément. Et d'une étape à une autre, il prononce la talbiya. Tout cela amène le serviteur à augmenter sa foi, à la renforcer. Tout cela l'éduque et lui apporte le meilleur des comportements. Les pèlerins vivent dans une sphère de foi qui les amène à la plénitude, qu'ils n'ont jamais connue avant cela. Le cœur rempli de désir et d'effroi, d'espoir et de crainte, le pèlerin se met à faire des invocations tellement longues qu'il goûte aux délices de la foi. Il mentionne et évoque Allah Azza wa Jal, l'invoque. Et lorsqu'il revient, il est triste de se séparer de cet état du cœur qu'il a découvert et dans lequel il s'est délecté. Il repart, lavé de tout péché, comme le jour où sa mère l'a mis au monde, avec une feuille blanche. Il repart à zéro. Que dis-je? Dans le positif, il a enlevé tous ses péchés mais gardé toutes ses hasanat et les a même décuplés. Tout en demandant à Allah Azza wa Jal le raffermissement sur la vérité. Celui qui ressent ses sens d'une étape à une autre dans le pèlerinage, et à chaque étape il augmente sa foi et la fortifie, la raffermit, ce dernier sortira de son pèlerinage avec ce qu'on appelle le plus grand miracle. A'zamul karama, al-istiqama, ala dinillahi wa shar'i, la droiture sur la religion d'Allah et sa législation. Il change et bouleverse sa vie. Celui qui sort du pèlerinage avec cet état-là, bonne nouvelle à lui. Il recommence une nouvelle vie avec une feuille blanche lavée de tout péché. Chacune des étapes du pèlerinage sera pour lui une augmentation de sa foi. Sixièmement, ta'miq ou l'istijabati lillahi azza wa jal. Renforcer, compléter et concrétiser la réponse à l'appel d'Allah azza wa jal. C'est-à-dire se soumettre à lui, obéir à ses ordres, s'éloigner de ses interdits, vivre sur sa législation. Ceci est un des grands buts recherchés dans le pèlerinage. Et très nombreuses sont les causes durant le pèlerinage qui viennent aider le serviteur à s'élever en degré. Premièrement, lorsqu'il se met en état d'ihram, en quittant le miqat, il prononce la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. La sharika lak. Et la talbiya, c'est une formule de réponse à l'appel d'Allah. Une istijaba. À 4 reprises se répète la réponse à l'appel d'Allah. Quand tu dis « Labbaik Allahumma », ça veut dire « Je réponds à ton appel, ô Allah. » Je réponds à ton appel, ya Allah. Je me soumets à ton ordre. Je t'obéis, je me soumets à ta volonté religieuse. Tu m'as invité au pèlerinage, m'as donné cet ordre, me voici soumis à toi, le cœur plein d'amour et d'espoir, de crainte. Mes membres se soumettent à toi. Tu es mon maître et je suis ton serviteur. Je ferai mon possible pour atteindre ton agrément. Je réponds à ton appel, Ya Allah. Quand tu diras labbaik, Allahumma labbaik, tous ces sens-là devront s'écouler de toi. À 4 reprises, tu répètes cette parole sans aucun doute. Ça va t'éduquer sur le fait de répondre aux ordres d'Allah Azza wa Jal après, en dehors du pèlerinage. Na'am. Dans le verset, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ et appelle les gens au pèlerinage. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah Azza wa Jalla a ordonné à Ibrahim alayhi salam de faire l'appel pour que les gens viennent au pèlerinage à pied sur leur monture. Ils viendront de toute contrée éloignée. Ils vont répondre à l'appel du Tout Miséricordieux. Labbaik Allahumma labbaik. C'est-à-dire, je réponds à ton appel. Une réponse après une autre réponse. On appuie cette réponse. On se soumet à la volonté, à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla en étant soumis à lui. Et remarquez qu'il est légiféré et recommandé aux pèlerins d'élever sa voix pour prononcer la talbiya. Et Zayd ibn Khalid al-Juhani radiallahu anhu nous dit, comme le rapporte Ibn Majah, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Jibril m'est venu. Et a dit à Muhammad, mur ashabak, fayarfa'u aswatahum bit talbiya. Ô Muhammad, ordonne à tes compagnons d'élever leur voix lorsqu'ils prononcent la talbiya. Fa'innaha min sha'a'ilil hajj. Ceci fait partie des emblèmes du pèlerinage. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam a été interrogé au sujet du meilleur pèlerinage. Il a répondu Al-Hajju wa Thajj. Et Al-Hajju, c'est le fait d'élever la voix en prononçant la talbiya. Et Thajj, c'est le fait de sacrifier beaucoup de bêtes, de faire couler le sang pour Allah Azza wa Jalla. Donc, comme dans ce hadith de Abu Bakr, dans le recueil de Mohamed Tirmidhi, on nous éduque à élever la voix dans la talbiya. Celui qui arrive au Miqat, jusqu'à Mecca, a prononcé la talbiya. Puis, le 8e jour de Dhul Hijjah, lorsqu'il commence, il se remet en état d'ihram pour aller à Mina, il prononce la talbiya. Puis lorsqu'il sort de Mina pour aller à Arafat, il prononce la talbiya. Puis lorsqu'il sort de Arafat pour aller à Muzdalifa, il prononce la talbiya. Puis lorsqu'il sort de Muzdalifa pour aller jeter les pierres sur la grande stèle, il prononce la talbiya. Tous ces moments-là, d'une étape à une autre, il prononce la talbiya, il élève la voix et donne son maximum pour répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Que pensez-vous de l'état de ce serviteur-là dans ce chapitre? Sans aucun doute, ça enracine ses sens, ça ancre la notion de répondre à l'appel d'Allah. Lorsqu'il nous ordonne une chose, on l'applique. Lorsqu'il nous interdit une chose, on s'en éloigne. Lorsqu'Allah Azza wa Jal t'a invité au pèlerinage, tu lui as répondu. Tu lui as répondu. Et sache que lorsque tu prononces la talbiya, tout ce qu'il y a à ta droite, tout ce qu'il y a à ta gauche, parmi les pierres, parmi les arbres, le sable sur le sol, tout cela, na'am, et te suit dans la talbiya. Na'am, te suit dans la talbiya. Comme c'est rapporté dans le ma'adha dans lequel l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Nous n'entendons pas cela, mais le prophète alayhi salatu wa salam nous en a informé. Barakallahu fikum. Jusqu'à ce que tu atteignes l'horizon, tout cela répète avec toi. Aussi Allah Azza wa Jalla nous dit: "Wa in min shay' illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Al-Isra qu'il n'y a pas une chose sans qu'elle ne mentionne la pureté d'Allah, mais vous ne comprenez pas leur formulation. Et il y a une grande leçon et une grande utilité à répéter fréquemment la talbiya. C'est pour enraciner ces sens-là dans le cœur. C'est pour élargir la teneur dans les veines du fils de Adam, dans son cœur, dans son sang. Et là, la grande question que tu dois te poser et tu dois t'interroger. Ô mon âme, nous avons répondu à l'appel d'Allah Azzawajal pour le Hajj. Nous avons fait ces efforts et dépensé ces biens. Nous avons donné ce temps et nous avons fait ces sacrifices. Nous avons enduré sans nous plaindre, en espérant la récompense, le paradis d'Allah et l'acceptation de ce pilier, de cette grande adoration, ce voyage qui n'a pas de semblable. Pour le pèlerinage, on a répondu à l'appel d'Allah. Mais qu'en est-il des autres piliers de l'islam qui sont bien plus importants, comme le tawhid? Où j'en suis dans l'apprentissage de mon dîn, du tawhid, de la croyance? Où j'en suis dans le suivi du prophète alayhi salat wa salam lorsque j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Où j'en suis dans l'appel à la prière? Est-ce que je réponds à cet appel pour prier à l'heure avec les musulmans? Où en suis-je de la zakat pour l'acquittement de la zakat de mes biens? Où en suis-je dans mon jeûne? Où en suis-je dans l'éloignement de ce qu'Allah m'a interdit? Il faut faire ses comptes. Il faut se poser la question. J'ai répondu à l'appel d'Allah dans le Hajj. Mais est-ce que je fais pareil dans les autres chapitres de la religion? On ne doit pas choisir ce dans quoi on veut obéir à Allah. Le serviteur se soumet à tout, à la volonté de son maître, de son Seigneur. Répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous invite, à ceux qui vous donnent la vie. Alors on doit faire nos comptes et se poser cette question. Allah nous dit: Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Prémunissez-vous du châtiment d'Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain, c'est-à-dire le jour de la résurrection. On doit faire nos comptes. Naam. Et celui qui sort du pèlerinage avec cette grande provision doit faire en sorte qu'elle l'accompagne tout au long de sa vie, le reste de ses jours. Il ne convient pas aux musulmans, il ne convient pas aux pèlerins, qu'Allah Azzawajal a honoré par ce voyage. Après avoir répondu à l'appel d'Allah Azzawajal, avoir élevé sa voix dans la talbiya, la bayk, Allahumma la bayk, tout ce voyage, jusqu'à avoir jeté les pierres le 10e jour, ça n'est qu'à ce moment-là que tu arrêtes la talbiya comme tu dois l'étudier. Puis, une fois de retour dans notre pays, dans notre foyer, on nous appelle à la prière, on répond pas à l'appel à la prière. On nous appelle à la zakat, on n'y répond pas. On nous appelle aux jeûnes, on n'y répond pas. On nous appelle à craindre Allah, à délaisser les péchés, et on ne répond pas. On nous appelle à arrêter de travailler dans le haram, et on ne lui répond pas. Subhanallah, alors, quelle véracité y aura-t-il eu dans notre réponse à Allah Azzawajal pour le pèlerinage? Et méditer la parole d'Allah Azzawajal dans le contexte du pèlerinage dans sourate al-Baqarah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété. Et craignez-moi donc, ô vous doués d'intelligence. Septièmement, شُهُودُ مَنَافِعِ الْحَجِّ الْعَظِيمَ. Témoignez, remarquez et soulignez les grandes utilités et les grands bénéfices durant le pèlerinage. Lors du pèlerinage, tu obtiens un nombre incalculable, inquantifiable d'utilités, de bienfaits. D'utilités et de bienfaits. Allah Azzawajal nous dit: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Pour qu'ils voient ce qui leur sera bénéfique. Quand tu viens au Hajj, tu dois viser cela et obtenir du bénéfice, des utilités, des bienfaits. Ces bienfaits-là sont indénombrables. Allah Azzawajal a dit مَنَافِعَ. Des utilités, des bénéfices. Et on a cité ce mot de manière indéfinie afin de montrer la grandeur, mais aussi la multitude de bienfaits. Donc, demande à Allah Azzawajal de te montrer ses utilités, ses bénéfices. Afin d'être un serviteur reconnaissant, tu dois viser, parmi les buts du Hajj recherchés, d'obtenir ses bénéfices. Celui qu'Allah Azza wa Jal, ô toi qu'Allah a honoré par cette invitation au pèlerinage, recherche ses utilités, recherche ses bienfaits et ses bénéfices. Puis note-les, concrétise-les et cherche, yarhamkillah, et cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le fait de perdre ton temps au pèlerinage. Tire bénéfice de ces leçons. Tire le grand bénéfice de ces exhortations, de ces leçons, de ces... Ce sont des leçons de vie en réalité. En plus d'augmenter tes hasanat, en plus de te laver de tes péchés, tu obtiendras ces grands bénéfices, ces grandes utilités. Et en réalité, c'est toi qui seras le riche. C'est toi qui seras le riche héritier. C'est toi qui seras le plus grand bénéficiaire. C'est toi qui seras le plus riche. Ça ne sera pas Bernard Arnault qui est censé avoir la plus grande fortune de ce bas monde. Le propriétaire de Louis Vuitton et autres, qui est censé peser 235 milliards. Ou Elon Musk, 195 milliards. Certaines personnes bavent devant ces chiffres et ils oublient qu'Allah Azza wa Jal leur a donné plus grand que cela. Ces gens-là sont dans le kufr. Ces gens-là sont dans l'égarement. Ils ne connaissent pas Allah. Ils ne se préparent pas pour la demeure de l'au-delà. Le vrai riche, le plus riche, sera celui qu'Allah aura agréé au pèlerinage. Celui qui aura été lavé de ses péchés. Celui qui aura obtenu le paradis et la prémonition contre le feu de l'enfer. Voici le plus grand bénéficiaire cette année. Il revient du pèlerinage avec un cœur lavé, avec une âme saine et purifiée, avec une nouvelle vie, remplie de foi, de piété, de bonnes résolutions. Enraciné sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, se délectant d'être un serviteur d'Allah et reconnaissant, comme on le verra dans le dernier chapitre, la grâce d'Allah sur lui. Et c'est pour cela que très souvent les savants disent que le pèlerinage aide à réformer sa vie. Que ce soit dans l'adoration, dans la croyance, dans le comportement, dans la vie familiale, économique, sociale, sociétale. Tout cela s'observe durant le pèlerinage. Huitièmement, التذكير بحال الأنبياء عليهم السلام. Le pèlerinage, parmi les buts recherchés, c'est de voir et de se rappeler plutôt, l'état des prophètes avant nous. Lorsque tu marches sur un chemin, sur le chemin de la vérité, parfois tu te sens esselé. Parfois tu es attristé du peu de gens sur ce bon chemin et de la multitude de personnes qui te critiquent pour être sur ce bon chemin, qui te contredisent dans ce bon chemin. Mais une des grandes consolations, tu la récites tous les jours. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Le chemin de qui? Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Dans une autre sourate, Allah nous dit qui sont-ils. Wa man yuti'i Allaha wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, c'est-à-dire les prophètes, les très véridiques, les martyrs, les gens pieux, les gens saints. Ben, devant toi, au loin, sur ce chemin, tu as les meilleurs des créatures. Alors ne te sens pas seul, car devant toi, tu as les meilleurs des exemples. Tu es sur le bon chemin, accroche-toi. Ben, en faisant le Hajj, tu vas te rappeler la biographie de ces prophètes émérités. Dans le Hajj, tu étudies la biographie des prophètes. Cette terre sainte et bénie, qu'est la Mecque, a marché dessus les meilleurs des hommes. Tu marcheras et tu passeras dans les étapes du Hajj et à chaque étape, tu te rappelleras un prophète, un messager, une personne pieuse, un compagnon, et tu feras tes adorations, en les prenant pour exemple. Barakallahu fikum. Par exemple, dans la mosquée de Al-Khayf, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit 70 prophètes y ont accompli la prière rapportée par l'imam Al-Hakim. Donc lorsque tu seras à Arafat, lorsque tu avanceras et que tu verras la mosquée, Amina, et tu verras la mosquée, lorsque tu seras à Amina et que tu verras la mosquée, ça te rappellera qu'il y a 70 prophètes qui ont prié à cet endroit-là. Lorsque tu feras ton tawaf, tu te rappelleras que des prophètes ont fait le tawaf ici. Que Abu Bakr marchait ici, Uthman, Ali, as-sahaba radiyallahu anhum. Allah te dit dans sourate Al-An'am, Ulaika alladhina hada Allah, fabihudahum yuqtadi. Voici ceux qu'Allah a guidés. Suis leur exemple. Suis leur voie. Et lorsque tu feras ce voyage, tu te rappelleras les voyages du prophète alayhi salatu wassalam avec environ 100 000 personnes qui ont quitté le Médina pour venir à Mecca. Allahu Akbar. Certains sur le chameau, certains sur le cheval, certains à pied. Allahu Akbar. Yani, près de 2 semaines de voyage. Taqriban. Quand tu feras ton tawaf et quand tu prieras derrière Maqam Ibrahim, tu te rappelleras le prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Ismaïl alayhi salam qui construisaient la Kaaba. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismaïl, Rabbana taqabbal minna. Allah te mentionne qu'Ibrahim alayhi salam élevait les fondations de la maison ainsi qu'Ismaïl les invoquait. Oh Allah, accepte de nous. Après ton tawaf, lorsque tu feras 2 raka'a derrière Maqam Ibrahim, tu rappelleras le verset وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Tu rappelleras que pour élever la fondation plus haute, il a eu besoin d'un escabeau. Et ce fut Maqam Ibrahim. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas collé à la Kaaba alors? Parce qu'au temps de Umar ibn al-Khattab, lorsque ça a commencé à gêner la foule de pèlerins, lorsque l'islam s'est propagé et répandu, il a décidé de déplacer Maqam Ibrahim, alayhi salam, radiallahu anhu. Lorsque tu boiras ensuite de l'eau de Zamzam et que tu feras As-Sa'i, tu te rappelleras la femme pieuse, la femme sainte, la mère du prophète Ismaïl, alayhi salam, Hajar, radiallahu anha, lorsqu'Ibrahim, alayhi salam, l'a déposée à Mecca, alors qu'il n'y avait ni eau ni culture. Il l'a laissée avec quelques vivres pour obéir à son Seigneur. Il l'a laissée avec son fils, qu'il a tant attendu, tant espéré, allaité. Ismaïl alayhi salam. Alors elle lui a dit, Men amarak, atadouni, men amarak bihada, atadouni bi ardin, laysa fiha dar'un, wala zar'un, wala anis, wala zad, wala ma. Hajar radiallahu anha lui dit, oh Ibrahim, à qui nous laisses-tu ici? Qui t'a ordonné cela? Tu nous laisses sur une terre où il n'y a rien. Ni culture, ni compagnie, ni provision, ni eau. Il lui dit, Rabbi Amarani, mon Seigneur m'a ordonné cela. Elle lui dit, فَإِنَّهُ لَيُضَيِّعَنَا. Allahu Akbar. La femme qui abandonne son affaire à Allah, المتوكلة على الله, Hajar radiallahu anha, elle répond à Ibrahim alayhi salam en l'encourageant dans sa volonté, dans sa soumission à son Seigneur. Elle s'entraide avec lui dans la piété. Et n'est pas un poids pour lui. Elle lui dit, alors Allah ne nous abandonnera jamais. Quel exemple pour nos mères, quel exemple pour nos épouses, quel exemple pour nos filles, quel exemple pour nos tantes, pour nos sœurs. Idan, layudayyana, alors il ne nous abandonnera jamais. Apporté par Ibn Abbas dans le tafsir d'Ibn Jarir, rahimahullahu ta'ala, radiallahu anhuma. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui accorda l'issue favorable. Elle est montée sur le premier mont qu'elle a vu. Et c'était quoi? As-Safa. Elle a cherché de l'aide. Elle n'a vu personne. Alors elle est redescendue. Arrivée au centre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Puis elle a marché. Elle a vu l'autre mont qui était Al-Marwa. Elle l'a escaladé. Elle a regardé. Elle n'a vu personne. Elle a réitéré cette allée. 6 fois encore. Au 7e allée, elle a entendu un bruit.
Alors elle a dit Sah, c'est pour se dire à elle-même, observe le silence. Puis l'ange, Allah Azzawajal a envoyé un ange. Probablement Jibril alayhi salam, si mes souvenirs sont bons, il a mis un coup au sol et l'eau de Zemzem a jailli. Alors elle a mis ses mains de peur que l'eau ne s'éparpille et qu'elle en manque, en perd. Au point où le prophète alayhi salat wa salam a dit qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé l'eau de Zemzem sortir, aujourd'hui l'eau de Zemzem serait un fleuve. C'est l'eau la plus bénie du monde. Allah Azzawajal lui a accordé le secours. Allah Azzawajal n'a pas abandonné sa servante parce qu'elle a placé sa confiance en lui et a abandonné l'espoir de rechercher, de retrouver l'aide d'une créature et s'est dirigée exclusivement, uniquement vers Allah Azzawajal qui lui a répondu. Et des savants ont dit, pourquoi au septième aller? Chez Atiyah Muhammad Salim, dans son charh de Arba'in Nawawi, a dit, parce que dans les six premiers allées, elle cherchait une créature. Mais à la fin, elle a désespéré de la créature et a tout abandonné au Créateur. Et là, immédiatement, Allah Azzawajal lui a répondu. Et là, immédiatement, Allah Azzawajal lui a répondu et nous a donné l'eau de Zemzem jusqu'aujourd'hui. On peut en jouir, en profiter, c'est une eau bénie. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, innaha ta'amu tu'am. C'est nourriture l'eau de Zemzem, ça nourrit. Ça c'est dans Sahih Muslim. Il a également dit shifa ou saqm. C'est une guérison pour la maladie. Et de manière plus générale, il a dit dans Ibn Majah, ma'u zamzam li mashuri bala. L'eau de zamzam sert à ce pourquoi tu la bois. Selon ton intention, Allah Azza wa Jal te donne. Beaucoup parmi les pieux prédécesseurs, par exemple, demandaient, yani recherchaient la science. D'autres la guider leurs enfants, d'autres la droiture, d'autres la santé, d'autres la force, d'autres et d'autres et d'autres. Tu demandes ce que tu veux à Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu seras le jour de Arafat sur la station de Arafat, na'am, tu te rappelleras la parole du prophète alayhi salat wa salam rapportée par An-Nasa'i, kunu ala masha'irikum fa innakum ala irthin min irthi abikum Ibrahim. Le prophète alayhi salat wa salam jour de Arafat leur rappelait qu'ils sont sur un héritage du prophète Ibrahim. Kuffar Quraysh eux n'allaient pas à Arafat parce que c'est pas dans le périmètre sacré. Il disait que nous, on est les durs dans la religion, on est les forts, on est les nobles, on est Quraysh. On ne va pas dans les endroits qui ne sont pas sacrés. Le prophète, alayhi salat wa salam, lui, a revivifié la sunna de son père Ibrahim, alayhi salam, le monothéiste. En ce jour-là, le prophète, alayhi salat wa salam, disait, khayru du'a, du'a ou yawmi arafa. La meilleure invocation, c'est l'invocation du jour de Arafa. Et la meilleure parole que j'ai dite, moi, ainsi que les prophètes avant moi, est, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shayin qadir. Nulle divinité ne mérite l'adoration, seul sans associé. À lui la royauté et la louange, il n'y a pas d'associé. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Lorsque tu jetteras les pierres, tu te rappelleras l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque il est parti pour jeter les pierres. Comme a dit Abdullah ibn Abbas, le prophète alayhi salat wa salam a dit, lorsqu'Ibrahim Khalilullah est venu pour les rites, le shaitan s'est interposé. Lorsqu'il a voulu jeter les pierres, na'am, alors il a jeté sept pierres dans sa direction. Puis il est parti sous terre. Puis une seconde fois, quand il est arrivé à la deuxième stèle, le shaitan lui est revenu. Alors il a jeté sept pierres. Il est parti sous terre. Une troisième fois, lorsqu'il a jeté les pierres quand il est arrivé à la troisième stèle, le shaitan lui est venu. Alors il a jeté sept pierres. Il est parti sous terre, rapporté par Al-Hakim. Ça, c'est ce qu'a fait le prophète Ibrahim alayhi salam. Et nous, c'est resté une sunnah de jeter sept pierres sur la stèle. On ne vise pas le shaitan. On jette sur la pierre, sur la stèle. Ou dans le bac. Lorsque tu sacrifieras la bête le jour du Eid, tu te rappelleras la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam et l'épreuve immense dans laquelle il a été testé et de laquelle il est sorti victorieux par l'aide et l'assistance d'Allah Azza wa Jal. Il a vu en songe qu'il égorgeait son fils Ismaïl. Alors, il a dit à son fils, Inni ara fil manami anni azbahuk. Je me vois en rêve régulièrement en train de te sacrifier. Fanzur madha tara. Qu'en penses-tu? Il lui a dit, Abati fa'al ma tu'mar. Oh, cher père, fais ce qui t'a été commandé. Satajinuni insha'Allahu mina as-sabirin. Tu me trouveras, insha'Allah, du nombre des endurants. Regardez cette famille. Le père se soumet à Allah. Il consulte le fils qui lui dit quoi? Obéis à ton Seigneur et lui rappelle la sincérité. Allahu Akbar. Ça, c'est qurratu ayn. Ça, c'est le délice du cœur et la fraîcheur du cœur, le bonheur de voir ton enfant sur le tawhid, sur l'islam, sous la soumission d'Allah, sur la soumission d'Allah, qui, de sur quoi, t'oriente, toi, le père, toi, l'éducateur, toi, l'exemple, à obéir à Allah et à ne pas oublier la sincérité dans ton acte. Alors, il prend son enfant, il prend une lame, il l'emmène, il le met face contre terre pour ne pas le regarder par pitié et difficulté. Et lorsqu'il s'apprête à se soumettre à son Seigneur, sacrifier son enfant qu'il a tant attendu, là, la lame se retourne. Qad saddaqta ar-ru'ya. Tu as mis en pratique ce qui t'avait été commandé, tu as traduit ta vision en action. Et là, on lui abroge le sacrifice de son enfant et on lui remplace par un bélier cornu à sacrifier. Quelle épreuve! Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Ceci est vraiment une immense épreuve. Tu te rends compte de cette épreuve? La soumission et l'obéissance à Allah Azza wa Jal dans toute situation. Rien n'a pu obstruer l'amour qu'Ibrahim alayhi salam avait pour son Seigneur. Rien, ni même un enfant qu'il a tant attendu. Là où la plupart des gens sont tentés dans leurs enfants de transgresser les limites d'Allah. Lorsqu'ils travaillent dans le haram, ils disent c'est pour nourrir mes enfants, j'ai pas le choix. Lorsqu'ils les emmènent dans des endroits haram, ils disent c'est pour les enfants, je n'ai pas le choix. Hein? Lorsque certains même tombent malades à cause de leurs enfants, tellement c'est une fitna pour eux. Certains désobéissent à Allah à cause des enfants. Certains s'éternisent dans ce bas monde et ne préparent pas leur au-delà à cause des enfants. Les enfants, c'est ni'ma. Les enfants, c'est un plaisir. Et c'est la jouissance du cœur. Et c'est le soleil de la nuit. Et c'est le bonheur qui habite nos cœurs. Et c'est les roses qui viennent peupler les jardins des foyers. Voici, et beaucoup plus encore, ce que sont les enfants. Mais ils ne doivent pas être une tentation à un point où ça te détourne de concrétiser ce pourquoi Allah t'a créé. Pourquoi Allah t'a créé? Pour que tu l'adores seul d'un culte sincère. Certains ne vont pas au Hajj par peur de la pauvreté, de ne pas avoir de quoi ensuite nourrir leurs enfants, alors que c'est Allah qui donne la subsistance. Barakallahu fikum. Certains ne veulent pas aller vivre et émigrer dans les endroits où il plaît Allah Azza wa Jal d'être, où il y a l'adhan, où il y a salat, où il y a la liberté d'adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala, où il y a la liberté d'éduquer son enfant, où il y a la liberté, na'am, que son enfant grandisse dans la droiture et dans les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce que ils sont dans la tentation des enfants. Wallah, wallahu al-musta'an. Voici un exemple ici du prophète Ibrahim alayhi salam et de la soumission de son enfant. Les exemples sont très nombreux, na'am, à travers le pèlerinage étape après étape. Et lorsque tu sais qui sont ceux qui t'ont précédé dans ce grand voyage, ça te rajoute de la fermeté, de la détermination, ça te rajoute de l'amour, ça te rajoute de l'espoir, parce que tu sais que tu marches sur les pas des prophètes. Alors remercie Allah. Là où certains sont dans le chemin de l'innovation, dans le chemin du shirk, dans le chemin de l'égarement, toi tu es sur les pas des prophètes, sur les pas des messagers. Allah Azza wa Jal t'a guidé. Remercie Allah, tu es sur leur aqidah, leur croyance. Tu es sur leur voie. Na'am, tu es dans leur héritage. Toutes ces actions du pèlerinage te rappellent les prophètes qui t'ont précédé et te rappellent que tu es sur les pas des meilleurs des hommes, des prophètes et des messagers. Remercie Allah, celui qui a fait de toi un de leurs héritiers. Et sois comme ils l'étaient eux sur la sincérité.
Tout cela va augmenter ton amour pour Allah et va te donner envie d'étudier encore plus leur biographie, de les connaître, d'apprendre la science. Et lorsque tu feras ton pèlerinage, tu ne seras pas comme l'ignorant qui ne connaît pas tout cela. Tu vas concrétiser le tawhid et la soumission, le suivi des prophètes et des messagers. Et comme le disait le prophète alayhi salat wa salam, Al-anbiya ikhwatun li'allat, ummatuhum shatta wa nabiyuhum wa dinuhum wahid. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, comme rapporté le Bukhari Muslim, les prophètes sont ikhwatun li'allat, ça veut dire qu'ils ont le même père mais des mères différentes. Leurs mères sont différentes et leur religion est la même. C'est-à-dire ils ont la même croyance. La même croyance. Mais leur législation est différente. Donc apprends leur croyance, qui était la même et l'unique vérité. Apprends le tawhid et concrétise-le. Apprends les piliers de la foi et applique-les, qu'ils aient un effet quotidien sur toi. Le 9e but à rechercher dans le pèlerinage, c'est ta'amir qu'il ittiba'i li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est enraciner en toi le suivi du prophète alayhi salat wa salam. Et tu dois sortir de ce pèlerinage en ayant pour exemple le suprême, l'illustre, le meilleur des prophètes et des messagers, le meilleur de l'humanité et même de la création d'Allah. Le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Ô pèlerin, efforce-toi d'accomplir ton pèlerinage comme l'a fait le prophète alayhi salat wa salam et comme il nous l'a orienté et comme il nous a enseigné. Beaucoup dans le pèlerinage font très attention d'une manière minutieuse qu'ils n'ont pas pour habitude d'opérer. Et ils viennent chier. J'ai fait comme ça, est-ce que c'est bon? Ça passe? Ils ont énormément peur de voir leur action rejetée. Pourquoi? Parce que pour qu'elle soit acceptée, agréée, il faut qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète. En plus d'être sincère, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette habitude-là que tu as dans le pèlerinage, ça doit être un héritage après. Pourquoi dans la purification tu n'en fais pas de même? Pourquoi dans la prière tu n'en fais pas de même? Pourquoi dans la salat, dans le jeûne? Et ainsi de suite. Tu dois suivre le prophète alayhi salat wa salam ensuite dans les phases quotidiennes de ta vie. Dans les adorations quotidiennes de ta vie, tu dois suivre le prophète et te demander comment est-ce qu'il a fait pour qu'Allah accepte ton œuvre. Et dans le pèlerinage, le prophète alayhi salat wa salam a dit aux sahaba, لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Prenez de moi vos rites, prenez de moi, faites comme moi, apporté par l'imam muslim. Donc, ô pèlerin, efforce-toi de suivre le prophète alayhi salat wa salam dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a commandé. Efforce-toi de t'éloigner de ce qu'il a proscrit, de ce qu'il a interdit. Na'am, sois motivé pour parfaire ton hajj. Et rappelle-toi, quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a embrassé la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, inni la a'lamu annaka hajar. Je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre. La tadur wa la tanfa'. Ni tu peux me toucher d'un mal, ni tu peux me toucher d'un bien. Wala ou la. Alors pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a embrassé la pierre noire? Il a dit, wala ou la anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Ici, Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous enseigne une grande leçon. C'est que ce qu'on fait dans le hajj, comme ce qu'on fait en dehors du hajj, c'est pour copier le prophète alayhi salat wa salam, et la baraka elle est dans ça, elle est dans le suivi du prophète alayhi salat wa salam. Dans sourate Al-Ahzab, Allah nous dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Ce qu'il fait, faites-le. Ce qu'il délaisse, délaissez-le. Et Omar ibn Khattab interdisait aux gens de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas. De faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas écouter cette histoire sensationnelle, poignante et bouleversante, rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu nous dit, et c'est un compagnon, Tuftu ma'a Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. J'ai fait le tawaf avec Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire en sa compagnie. Fastalama al-Rukn. Omar ibn al-Khattab a touché la pierre noire. Ya'la radiyallahu anhu a dit, j'étais proche de la Kaaba. Falamma balagtu al-Rukn al-Gharbi alladhi yali al-Aswad. جررت بيده ليستلم. Donc, Ya'la nous dit, arrivé au coin qui suit le coin de la pierre noire, je me suis avancé pour toucher ce coin-là. Omar ibn al-Khattab lui a dit, ma sha'nuk? Fakultu, ala tastalim? Omar ibn al-Khattab lui a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, pourquoi tu t'avances pour toucher ce coin-là? Alors Ya'la lui a dit, que se passe-t-il? Toi, tu ne vas pas le toucher? Il lui a dit, alam tatouf ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez l'éducation d'Omar ibn al-Khattab. Un sahabi qui parle en sahabi. N'as-tu pas fait le tawaf avec le messager d'Allah? Fakultu bala. Il lui a dit, certes. Fakala, afara'aytahu yastalimu hadhaini ruknay. Et là, tu as vu toucher ces deux coins-là. Qala, qultu la. Il lui a répondu non. Qala, afalaysa laka fi uswatun hasana. Omar lui a alors dit, et n'as-tu pas en lui un parfait exemple à suivre? Qultu bala. Je lui ai répondu, certes. Comme, certes, Yanni, tu as raison. Fanfudh ank. Il lui a alors dit, éloigne-toi de tout ce que le prophète n'a pas fait. C'est quoi alors la règle? Pourquoi est-ce qu'on touche ce coin-là et celui-ci et pas les autres? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. D'accord. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une chose dans une adoration, est-ce que nous, après, on a le droit de le faire? Non. Pourquoi? C'est qui notre exemple? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui le meilleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous a été envoyé pour nous enseigner comment adorer Allah, ce qu'Allah aime? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qu'il n'a pas fait, on ne doit pas le faire. Parce que si ça avait été un bien, il nous aurait devancés et les compagnons nous auraient devancés. Radiallahu anhum. Ici, une très grande leçon de suivi de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de toucher simplement un ou deux autres coins que le prophète n'a pas touché. Mais certains touchent les piliers de la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam. Certains frottent des vêtements à la Kaaba. Certains, subhanallah, recherchent la baraka dans des choses qui ne sont pas légiférés et tombent malheureusement dans le shirk asrar. Par ignorance, la plupart du temps, certains sont égarés par des prêcheurs de l'innovation et touchés et affectés par le soufisme en général. Donc toi, le pèlerin, toi le suiveur du prophète alayhi salat wa salam, toi qu'Allah a honoré en te joignant à la communauté du Muhammad alayhi salat wa salam, efforce-toi de suivre la sunna pas à pas. Pas à pas. Fais en sorte que chaque acte que tu feras au pèlerinage soit en conformité avec la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Puis, pose-toi cette question. Lorsque tu étais au pèlerinage, tu as tout fait pour qu'il soit accepté. Alors tu faisais attention à viser la sunna et à ne jamais la contredire. Qu'en est-il de ton wudu? Qu'en est-il de ta prière, de ton comportement, de ton travail? Est-ce que tu vises la sunna du prophète alayhi salatu wassalam également? Ou est-ce que tu te complais dans l'innovation? La bid'a, l'innovation, c'est le fait d'adorer Allah azza wa jalla d'une manière que le prophète ne nous a pas enseignée. Et malheureusement, beaucoup sont éduqués, ont grandi dans des endroits où il y a une innovation et pour eux, c'est la base. Et celui qui l'invite à délaisser l'innovation, il le voit comme un ennemi. Mais en faisant dua et en éduquant les gens sur le tawhid, sur la sunna, en leur exposant les versets, les hadiths, en ayant de la miséricorde pour Inch'Allah ta'ala, beaucoup d'eux délaissent l'innovation et viennent à la sunna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Par la grâce d'Allah, puis les efforts des savants de la sunna qui étudient, appliquent, transmettent. Rahmatullahi alayhim wa hafidahum. Donc après le hajj, toi qui as suivi le prophète alayhi salat wa salam, quand tu rentreras dans ton pays, hein, ne suis pas les coutumes qui contredisent la sunna, ne suis pas les gens qui sont dans l'innovation, éloigne-toi de tout cela et suis les savants de la sunna dans toutes les branches de la religion. Accroche-toi à la croyance authentique, à la voie du tawhid, à la voie de ahl sunnati wal jama'a. Dixièmement, mukhalafatul mushrikin fi a'malihim wa dalalatihim. Parmi les buts recherchés dans le pèlerinage, et ce que le prophète alayhi salat wa salam a clairement exposé, le fait de se distinguer de la voie des polythéistes et de leur égarement. Sachez que Kuffar Quraysh faisait le pèlerinage. Il faisait le tawaf et ainsi de suite. Mais il contredisait la bonne croyance et il contredisait la sunna des prophètes. Par exemple, ils prononçaient la talbiya, mais dans leur talbiya, il y avait du shirk. Ils disaient la baik Allahumma la baik. لبيك لا شريك لك لبيك إن إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. Ils prononçaient du shirk dans leur talbiya. Le prophète leur disait de ne pas faire cela. Et Allah nous a amené une talbiya qui est pure, une talbiya qui est une réponse à l'appel d'Allah, où il y a l'espoir, la crainte, l'amour, où il y a la soumission, où il y a le tawhid et l'épreuve du tawhid. Allah nous dit dans le Coran: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. N'assignez donc pas des égaux à Allah alors que vous savez. Alors que vous savez que c'est lui le seul créateur, c'est lui le maître propriétaire, décisionnaire. Alors pourquoi vous adorez qu'Allah Azza wa Jal? Et Jabir ibn Abdullah nous dit, Ahalla bit Tawhid, le prophète s'est mis en tadi haram en prononçant la formulation du Tawhid. Et lorsqu'il était à Arafat, jusqu'au coucher du soleil, il a contredit les polythéistes qui, eux, ils venaient à Arafat. Mais il n'allait pas à Muzdalifa. Tout à l'heure, j'ai dit il ne venait pas à Arafat. Je me suis trompé. C'est à Muzdalifa qu'il n'allait pas. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, les contredisait dans plusieurs choses. Premièrement, la talbiya. Eux, il y avait du shirk, le prophète sallam formulait le tawhid. Deuxièmement, le jour de Arafat, le prophète, alayhi salatu wassalam, restait jusqu'au coucher du soleil. Quant aux et ils priaient le Maghrib et l'Isha à Muzdalifa. Ils déferlaient vers Muzdalifa. Quant aux polythéistes, eux, ils partaient et se précipitaient. Ils se précipitaient de partir avant le coucher du soleil. Aussi, ils ne se rapprochaient pas ou ils n'aimaient pas sortir du périmètre sacré. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam est parti à Muzdalifa, ils se sont étonnés. Ils pensaient qu'il allait continuer pour revenir au périmètre sacré. Eux allaient à Muzdalifa, Naam, et partaient après le lever du soleil. Ils allaient à Muzdalifa et ils partaient après le lever du soleil. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, lui, il partait lorsque le soleil jaunissait avant le lever du soleil. Il allait auprès de la montagne, il faisait du'a, il faisait du dhikr. Puis il partait et il allait jeter les pierres sur la grande stèle. Donc on voit que dans tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam les contredisait. Il ne agissait pas comme eux, il ne prenait pas comme exemple les polythéistes. Aussi, ils voyaient et considéraient la Umra dans les mois sacrés comme un crime majeur, comme un égarement évident. Et lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, toutes ces Umras, il les a fait durant les mois sacrés. Donc, tout comme tu t'éduques durant le pèlerinage à ne pas agir avec les mauvaises croyances des polythéistes, les mauvaises œuvres, les adorations dans l'égarement, tu dois t'efforcer après ton pèlerinage de rester sur la voie du prophète, la voie du tawhid. L'éloignement de chercher à ressembler à des gens qui n'ont pas de part dans l'au-delà, à des gens qui ne vénèrent pas ton Seigneur, qui n'unifient pas Allah d'un culte sincère. Lors du pèlerinage d'adieu, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son discours, a dit, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي. موضوع. Toute chose relative à la période anti-islamique est abrogée sous mes pieds. Le sang de la période anti-islamique est posé, c'est-à-dire on ne peut plus réclamer la loi du talion pour une personne prétendant qu'elle a assassiné une personne de notre famille. Riba, l'usure, Rasulallah l'a abrogé, l'a mis sous ses pieds, et ainsi de suite, comme c'est venu dans le hadith rapporté par l'imam muslim. Tout cela pour contredire à nouveau la voie du polythéisme. La voie du polythéisme. Et aujourd'hui, regardez l'état des jeunes et même de certains parents, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Hein? Toi, Allah Azza wa Jal, t'as guidé à l'islam, à la sunna, remercie Allah Azza wa Jal. Et sache que beaucoup de gens sont égarés et ils prennent pour exemple des youtubeurs ou bien des influenceurs, ou bien des footballeurs, ou bien des businessmen, qui ne cherchent aucunement le halal, qui ne cherchent aucunement l'agrément d'Allah, qui ne partagent aucunement leur temps pour prier, adorer Allah Azza wa Jal, s'éloigner de sa colère, qui ne cherchent aucunement à faire le bien avec ce qu'ils gagnent, et qui n'ont d'autre but si ce n'est ce bas-monde. Sois fier de ta religion. Marche fier d'être un muslim. Allah Azza wa Jal t'a élevé, t'a honoré au-dessus des autres. De par ta foi, de par ta croyance, par ton comportement et tes bonnes œuvres. Ne cherche pas à ressembler à ceux qui n'ont pas aimé Allah d'un culte sincère, ni ont été aimés par Allah Azza wa Jal. Et réforme-toi et éloigne-toi de la ressemblance avec ceux qui encourent la colère d'Allah Azza wa Jal et des égarés. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Abradu al-nas ila Allahi thalath » Les gens qu'Allah déteste le plus sont au nombre de trois. Et parmi eux, Mubtarin fil Islam sunnat al-jahiliya, une personne qui cherche à revivifier une tradition de la période anti-islamique en islam. Ce hadith, le hadith Abdullah ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari. Et vraiment se désole de voir comment nos jeunes suivent et vénèrent des gens de l'égarement, des gens des passions. Non, mais se sont éloignés des vrais exemples, des vrais saints, des vrais héros, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, pour nous avertir, assurément vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés. Il a même dit, à un point tel que si l'un d'entre eux rentrait dans le trou d'un lézard, il y rentrerait également. Et le trou du lézard, c'est connu que c'est un circuit à dérivation. Il y a plusieurs coins, c'est pas facile. C'est-à-dire, même s'ils rentrent dans des choses compliquées, vous en ferez de même. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fera partie. Donc, à toi de savoir à qui tu veux ressembler. Aux sahaba, au prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, aux imams de l'islam, ou bien aux gens de l'égarement et des passions. Et notre époque est encore plus dangereuse. Parce que en deux clics, tu as accès à toutes les poubelles du monde et d'Internet. Sur la toile, en deux clics, tu as atterri dans un pays, puis dans un autre, dans une ville, puis dans une autre. Des gens inconnus, dans des campagnes désertiques, peuvent exposer tout le mal et avoir accès à tout le mal. Là où avant, pour avoir un aura, il fallait être connu. Ça n'est plus nécessaire. En deux clics, les gens font des chaînes YouTube et propagent tous les déchets et tous les rebuts de ce bas monde. Wallahu musta'an. Et lorsque la personne a accès à et voit cela, le regard et la porte du cœur, ça le dénature, ça le corrompt et ça le fait tomber dans les passions, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal sauve et à qui il fait miséricorde. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, viendra un temps لا أتينا على الناس زمان تكون في القلوب قلوب الأعاجم apporté par At-Tabarani. Selon Abdullah ibn Amr, viendra un temps où les cœurs, donc il s'adresse à son peuple, majoritairement arabe, où les cœurs seront des cœurs tels ceux des non-arabes. À cette époque, les civilisations non-arabes, ils étaient dans quoi? Ils étaient dans le polythéisme. Ils étaient dans la dunya, ils étaient loin de la science et des bonnes mœurs. C'est-à-dire, ces gens-là se comporteront comme s'ils n'avaient pas reçu le livre, pas reçu la guidée, s'ils n'avaient pas de mœurs, ni de jalousie pour leur famille, ni de jalousie pour leur religion, de par la multitude de l'ignorance et aussi du penchant vers la dunya, le suivi aveugle, et d'autres buts si ce n'est amasser les richesses sans regarder l'agrément d'Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le dernier point qu'on va citer ce soir, التذكير بالآخرة. Le pèlerinage, parmi les buts, ses buts recherchés, c'est le rappel de l'au-delà. Dans le pèlerinage, tu vois des rassemblements peut-être auxquels tu n'as jamais assisté. Les gens sont venus de toute contrée, de tout pays, avec tout moyen de, yani, de transport. Certains en avion, certains en bateau, certains en train, et ainsi de suite. Parmi eux, il y a le blanc, parmi eux, il y a le noir, parmi eux, il y a le jaune. Il y a l'arabe, il y a le non-arabe, le riche, le pauvre, le roi, le gouverneur, le gouverné. Et tu vois tous ces gens-là converger vers un seul et même endroit le jour de Arafah. Quand tu vois ces vagues humaines arriver, wallahi, que lorsque tu as lu le Coran ou la Sunna, ça te rappelle le jour de la résurrection et ce qu'on appelle le Hashr, le grand rassemblement. Et la première étape de ce rappel, c'est lorsque tu dis au revoir à ta famille, tes parents, femmes et enfants. Tu leur dis au revoir et tu ne sais pas si tu vas revenir de ce voyage. Tu vas voyager. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Car toute âme goûtera à la mort et on ne sait pas quand est-ce que viendra notre heure. Tu fais tes provisions. Comme tu fais tes provisions pour le jour de l'au-delà. Puis tu voyages. Une fois dans l'avion, tu prononces du'a ou safar. L'invocation du voyage. Hein? Et ça te rappelle à nouveau la mort. Et le jour dernier. Puis, arrivé au miqat, tu te laves. Tu enlèves tes vêtements, tu te laves et tu ne portes que deux tissus. Un en bas pour couvrir la partie inférieure, un en haut pour couvrir la partie supérieure. Na'am. Pour couvrir la partie supérieure. Et cela te rappelle quoi? Al-Kafan, lorsqu'on va te laver et lorsqu'on va te mettre dans le linceul et on va prier sur toi, ça te rappelle la mort. Cette réalité qu'on tend à nous faire oublier, de laquelle on veut nous distraire, pour nous noyer dans ce bas monde, et être simplement des producteurs pour les gens de dunya. Et là, tu vois la pauvreté, l'humilité de toutes les créatures réunies. Il n'y a pas de différence entre les riches et le pauvre. Tout le monde a des vêtements propres à son pays, à ses coutumes, à ses habitudes. Chacun trouve que ses vêtements sont les plus beaux, n'est-ce pas? Et chacun a un style vestimentaire, mais ce jour-là, tout le monde se dénude pour mettre deux vêtements, un en bas, un en haut, blanc. Rien d'autre. La tête découverte. Ça te rappelle quoi le jour où tu vas sortir de ce bas monde pour entrer dans un trou? Tu vas sortir de cette terre pour entrer sous terre. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَاتًا Urla, bohma, les gens seront réunis le jour de la résurrection, nus, non circoncis et dépouillés de tout bien. Ils ne posséderont rien, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le jour de Arafah, Quand tu arriveras le jour de Arafat, tu verras tout le monde réuni sur une seule et même place. Ça te rappellera le jour du grand rassemblement, quand tout le monde sera réuni, les premiers et les derniers. Dans une seule et même place, subhanallah, en un instant, tout le monde arrivera. Celui qui nous réunit tous le jour de Arafat, sachez que c'est Allah, le Seigneur des mondes, qui nous réunira tous le jour de la résurrection. Que tu sois mort dans ton lit, que tu sois mort brûlé, que tu sois mort dans la mer, que tu sois mangé par les fauves ou les poissons, Allah Azza wa Jal ordonnera et on sera tous ressuscités sur la place du jugement dernier. Et le jour de Arafat, c'est le jour où Allah sauve le plus de gens de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, « Ma min yawm akthara min an yu'tiqa Allahu fi abdan min an-nar min yawmi Arafat. » Il n'y a pas un jour où Allah sauve plus de gens de l'enfer que le jour de Arafat, apporté par l'imam Muslim. Et le jour de Arafat, le prophète alayhi salatu wa salam a dit à ses compagnons avant le coucher du soleil, « Ayyuha an-nas, innahu lam yabqa min dunyakum fima madha minha illa kama yabqa min yawmikum hadha fima madha min. » Vous les gens, il ne vous reste de ce bas monde que ce qu'il vous reste de votre jour que voici. C'est-à-dire par rapport à la dunya dans son entièreté, la part qui reste pour arriver au jour de la fin du monde, hein, c'est comme vous, le jour de Arafat, la part qui vous reste pour arriver au coucher du soleil, rapporté par l'imam Ahmed. Donc ce jour-là, fais beaucoup de doigts et espère le pardon d'Allah, espère qu'il nous sauve de l'enfer. Donc le pèlerin assiste à des stations, subhanallah, qui lui rappellent la mort et le jour dernier. Et remarquez dans surat Al-Baqarah, quand on parle du Hajj, « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » On nous parle des derniers jours du Hajj, à Mina, après l'Eid, si tu veux, tu fais deux jours. Et si tu veux, tu fais un troisième jour. Il n'y a pas de mal pour celui qui craint Allah. Puis on nous dit, et craignez Allah, et sachez que vers lui vous serez rassemblés. Regardez, ça nous rappelle la mort et le rassemblement. Alors dans les versets du Hajj, on nous parle de la mort et on nous dit de prendre nos provisions, et la meilleure provision, c'est la piété. Et vu qu'il y a le rassemblement, et vu qu'après la mort, on sera ressuscité, il faut prendre nos provisions, parce qu'on sera jugé et rétribué. Et cette croyance-là aide le serviteur à réformer son cœur, sa langue, son corps, à être pieux, à délaisser les péchés, à prendre un nouveau départ et entreprendre une nouvelle direction sur la piété, sur l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et regarde cet effet dans les actions, dans Sourate Tour. Allah Azza wa Jal nous décrit les gens pieux. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Allah Azza wa Jal nous décrit les gens pieux et leur état. Na'am. Allah Azza wa Jal dit que dans leur famille, ils étaient dans l'effroi, dans la peur. Le lieu où, en général, tu es censé être bien. Mais les gens pieux chez eux, ils avaient peur d'Allah, ils pensaient au retour vers Allah. Ils pensaient à la résurrection, à leur péché. Na'am. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur eux? فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Ils ont œuvré. Ils ont œuvré, ils se sont repentis, ils ont agi. Alors Allah Azza wa Jal les a récompensés. Et la suite, puis Allah nous a protégés du châtiment de As-Samoum. Donc le rappel de la mort, ça a un effet. C'est pour ça que le Prophète sallam dit أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَذِي مِنْ لَذَّاتِ. Mentionnez souvent celle qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Ces gens-là avaient la certitude que ce bas monde n'allait pas rester et qu'ils allaient revenir vers Allah, alors ils ont œuvré et ils ont travaillé. Voici quelques buts à rechercher dans le pèlerinage. Il faut les noter, les comprendre. Et tout au long du pèlerinage, les rechercher, les amasser, afin que ça ait le meilleur effet dans notre vie. Puisse Allah Azza wa Jal pour cela nous aider. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Allah muwaffiqna لحج بيتك الحرام. الله وفقنا لحج بيتك الحرام. الله وفقنا لحج بيتك الحرام. اللهم عنا اللهم عنا اللهم عنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين. اللهم اشف مرضانا رضا المسلمين. واقض الديون عن المدينين. واقض الديون عن المدينين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفار يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحم أمهاتنا. اللهم ارحم أمهاتنا. اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم اصلح زوجاتنا. اللهم اصلح أبناءنا. اللهم اصلح أبناءنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. On finira ce sujet, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, éventuellement, na'am, la semaine prochaine. On finira ce sujet, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.